Bonjour, bienvenue sur Eldoradio, la radio des collégiens de Sionzier. Aujourd'hui, nous accueillons des élèves italiens de Morgé et Courmayeur, dans la vallée d'Aoste. Toute la semaine, nous avons réalisé des reportages ensemble.
Nous sommes Christian et Lina et nous allons vous parler du réchauffement climatique en Haute-Savoie. Quel impact sur l'activité dans nos régions des montagnes?
Dans cette émission spéciale, on part à la rencontre de producteurs et on va vous faire découvrir une innovation technologique, les exosquelettes de randonnée.
Vous ne verrez plus la montagne de la même façon. Sans plus attendre, on commence par la première interview sur la verger des Pays-Alpes. Baptiste, qu'avez-vous découvert?
Pommes et poiriers sont des arbres typiques de la Haute-Savoie. Nous avons découvert le verger conservatoire de l'association Pays-Alpes. Monique Cocon nous a fait visiter l'endroit où des bénévoles l'aident à traiter les arbres et à récolter les fruits. Ils nous parlent de leur adaptation face à la transition climatique dans le verger. On écoute.
Moi, je m'appelle Monique Cocolon. Je travaille depuis presque 40 ans dans la valorisation du territoire, dans l'association Pays-Alpes. On a des ruines d'un château, on fait visiter un prieuré. On a créé une maison de la mémoire pour rassembler tout ce qu'on sait au niveau scientifique et historique de Pays-Alpes. On fait visiter un jardin de découverte dans la vallée de l'Arve voisine. Et puis surtout, on travaillait avec une fruitière qui a malheureusement brûlé en 2023. Donc on explique aussi ce que c'est que l'agriculture de montagne d'hier et d'aujourd'hui. Et ici, vous êtes au verger conservatoire de Sevrat, sur la commune de Vieux-en-Salat. Et Pays-Alpes s'attache à valoriser tout ça. C'est 30 000 visiteurs à l'année. C'est une cinquantaine de bénévoles, donc 30 bénévoles, qui font vivre toute une partie de l'association, essentiellement à travers un super festival qui s'appelle le Festival du Hérisson. Hérisson qu'on ne retrouve pas dans notre verger, dommage. Et ce verger, on l'entretient aussi pour des vertus paysagères, parce qu'on estime que le jour où il n'y aura plus de verger, le paysage va complètement changer en Haute-Savoie. À côté de chaque ferme, autrefois, il y avait des vergers, et les vergers chez nous, c'est beaucoup de pommiers et de poiriers. Et on a plus de 80 variétés de pommes et de poires différentes.
Jean-Jacques Duval, je suis retraité, bénévole pour travailler sur le verger, particulièrement sur le verger parce que depuis toujours j'aime les arbres.
Quel changement constatez-vous dans le verger avec le réchauffement climatique?
Alors sérieusement, pour l'instant le changement climatique, on ne le voit pas trop dans le verger. Vous voyez le verger là, il est tout à fait normal, il y a des feuilles, il y a des pommiers qui portent des pommes. La petite différence, c'est peut-être que les fleurs apparaissent un peu plus tôt dans la saison. Les fleurs et puis également les parasites. Là, il y a quelque temps, on a traité le verger parce qu'il y a plein de chenilles qui s'attaquent un petit peu aux feuilles. Et ça, ça doit être aussi un effet du réchauffement climatique.
Quelle solution envisagez-vous pour l'avenir?
Si les vergers fleurissent et donnent des pommes plus tôt, ben on va faire la cueillette plus tôt. S'il y a des arbres qui ne supportent pas la température, les nouvelles températures, on peut essayer de changer d'espèce, de variété, prendre des arbres qui viennent plus du sud et qui supporteront le nouveau climat, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre.
C'était le reportage des collégiens de Sionzier, Morget et Courmayeur au verger conservatoire de Pays-Alpes. Nous avons aussi interviewé Arnaud Delers du château des Rubins, l'observatoire des Alpes. De tout temps, les sociétés se sont adaptées à des changements climatiques. Arnaud Delers.
La première chose, c'est que le réchauffement climatique va modifier les sols, modifier la flore et le couvert forestier. La deuxième chose, c'est que le réchauffement climatique va engendrer une raréfaction de l'eau. Et là, on a deux problèmes qui se posent aux gens qui travaillent d'une manière ou d'une autre, ou qui vivent de la montagne. Alors, modification des sols, ça veut dire que le couvert forestier va être modifié, nos forêts, nos arbres, les essences des arbres vont être modifiées, mais aussi la composition de la flore. Si aujourd'hui on a de si bons fromages en Savoie, on a du reblochon, on a de l'abondance, c'est des fromages qui se vendent très bien, qui permettent à nos agriculteurs de bien vivre. Si on arrive à faire ces si bons fromages, c'est parce que les vaches peuvent pâturer des prairies alpines, des herbes qui sont d'une très très grande diversité, avec beaucoup plus de variétés de plantes qu'on peut trouver en plaine. C'est ça qui donne en fait toute la qualité du lait et donc du produit final. Si on modifie cette herbe que les vaches mangent, ça va modifier aussi le produit final. Et ça c'est un défi qui va être compliqué de relever. Maintenant, et c'est là que l'histoire est intéressante, c'est que les épisodes de réchauffement climatique, les Alpes en ont déjà connu énormément. Nous, on ne vit que un réchauffement climatique parmi d'autres. La grande différence avec les précédents réchauffements climatiques, c'est que celui qu'on vit et qu'on connaît aujourd'hui est dû non seulement à une phase naturelle de réchauffement, mais qui se trouve accélérée par l'activité humaine. Et ça, on ne connaît pas évidemment les effets de ce réchauffement-là, qui est une sorte de double effet qu'il est difficile de mesurer. Mais si on regarde dans l'histoire, on a déjà connu un grand réchauffement au Moyen-Âge, où par exemple, autour de l'an 1000, il était possible de vivre à l'année à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Ce qui est toujours plus difficilement le cas aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on s'adapte. C'est surtout ça la question centrale. Et l'histoire nous montre de quelle manière les hommes se sont adaptés justement à ces phases de réchauffement ou de refroidissement. Par exemple, à certains moments de l'histoire, en changeant le type de bétail qui pâturait les montagnes. C'est-à-dire qu'on a préféré à un moment monter des moutons, par exemple, que des vaches, qui étaient plus résistants à certains égards. Donc voilà, c'est plus une question d'adaptation. Comment s'adapter à ça ?
C'était Arnaud Delers du Château des Rubans. On a parlé des pommes et des poires, il y a aussi les vignes. Le vin de Haute-Savoie et de Savoie subit-il des variations brusques du climat ?
Pour en savoir plus, nous avons interrogé Thomas Saint-Gel, le gérant du domaine Carrel et Saint-Gel à Jonjeu, dans le département voisin de Savoie. Il a repris le domaine il y a 3 ans et demi. Il y a une trentaine d'hectares sur le domaine, situé entre le lac du Bourget et le Rhône. Le domaine vend près de 200 000 bouteilles par an en France et à l'étranger des États-Unis jusqu'à Hong Kong. Pour l'avenir, il pense déjà aux solutions à adopter pour conserver les vignes et la qualité du vin. Écoutons Thomas Saint-Gel.
En 2024, on a eu beaucoup de pluie, donc les millésimes qui mûrissent entre guillemets plus tardivement, on essaie de faire attention à ce que les vignes soient bien aérées pour limiter l'humidité, pour que les raisins arrivent à maturité malgré tout. En 2025, c'était le contraire. On a eu la sécheresse dès le début de l'été. Et donc, on a dû plutôt limiter ce qu'on appelle l'effeuillage, donc laisser un peu plus de feuilles sur les vignes pour les protéger de la chaleur. Malgré tout, les vendanges en termes de rendement, donc une fois qu'on presse les raisins, le jus qu'on a pu obtenir était inférieur de 30% à la moyenne parce que les vignes avaient manqué d'eau pendant leur développement, on va dire, clé pour la taille des raisins entre juin et août.
D'après vous, comment les changements climatiques peuvent influencer le goût du vin ?
Le goût du vin ?
Comme on est en moyenne altitude, on a quand même encore de la fraîcheur et des amplitudes thermiques très fortes. C'est-à-dire qu'il peut faire très chaud la journée, mais il peut faire aussi très frais. Et donc pour faire pousser du raisin, c'est assez idéal. Même si on ne peut pas se réjouir de ça, aujourd'hui le réchauffement climatique nous est plutôt bénéfique parce qu'on arrive à avoir des maturités, des équilibres dans nos raisins et donc dans nos vins. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelques degrés d'alcool supplémentaires et de maturité des raisins qui font que nos jus sont de meilleure qualité. Après, comme d'autres régions, on commence à réfléchir au risque de chaleur pour éviter d'avoir trop d'alcool dans nos vins. Et pour arriver à faire ça, on essaye de maîtriser, mais on est dépendant de la nature, donc on travaille sur plusieurs éléments. La taille de nos vignes, donc on peut par exemple laisser un peu plus de feuilles pour protéger les raisins davantage. On fait ce qu'on appelle du couvert végétal, donc on broie pas mal d'herbes et de sarments de vignes qu'on laisse au milieu des rangs de vignes pour protéger le sol et garder un peu plus de fraîcheur. On peut vendanger un peu plus tôt si besoin pour essayer d'avoir des degrés d'alcool un peu plus bas. On a des vins qui sont plus équilibrés qu'ils ne l'étaient dans le passé. C'est vrai sur les blancs et c'est très vrai sur les rouges. La mondeuse, qui est un parent de la Syrah, fait des vins avec le même profil mais avec moins d'alcool et donc pour nous c'est plutôt bénéfique à court terme.
C'était Thomas Saint-Gel, le gérant du domaine Carrel et Saint-Gel à Jonjeu.
On passe à notre domaine, plus petit, dans le côté d'Aïse, à notre Savoie. Louisa, qui avez-vous rencontré?
Adrien Vallier nous a accueillis dans son domaine viticole à Marigné. Lors d'une matinée pluvieuse, il nous a fait découvrir les caves ancestrales et les cépages de Gringet. Pour cette visite, nous avons été accompagnés par Samir Mafoudi, chargé de valorisation du patrimoine bâti au département de la Haute-Savoie. Partons à la découverte de ces vignes exposées au changement climatique.
Moi, je m'appelle Adrien Vallier. J'ai commencé l'activité de vigneron en 2018. Et on se retrouve à Marigné, chez Guy Perret, qui est une belle ferme et qui doit dater de 1200 ou 1300 ans. Et avec une belle cave, parce qu'on se dit qu'à Aïse, comme il n'y a que 20 hectares, il n'y a pas une grande histoire de vignes et de viticulture. Mais là, on va voir des vieux foudres, un vieux pressoir et une belle cave cistercienne.
Moi, je m'appelle Guy Perret. Cette ferme faisait partie de l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau. Et les moines ici cultivaient la vigne pour aller donner à boire et à manger à leurs collègues de l'abbaye à Saint-Jean-d'Eau. Et j'ai loué le terrain à l'arrière, 2,5 hectares de terrain qui était en friche à Adrien. Et donc il a défriché, il a labouré et il a planté. Voilà.
Vous pouvez regarder sur la droite, il y a des bouteilles encore qui sont souvent vides, mais qui datent d'avant 1956.
Enchanté. Je m'appelle Samir Mafoudi. En fait, je travaille au service archéologie et patrimoine bâti. Je vais pouvoir compléter. En fait, on est sur un terroir, la Côte d'Arve, qui est un terroir viticole assez ancien. La première mention que peut avoir sur la Côte d'Arve, c'est une donation en fait, du comte de Genève qui va faire à l'abbaye de Payonnais. On est sur un terroir ensoleillé et on sait que depuis le Moyen-Âge, au moins les comtes de Faucigny et plusieurs établissements religieux avaient des domaines viticoles à cet endroit. Et dans le cadre de l'inventaire du patrimoine bâti, on a travaillé sur plusieurs bâtiments où on se rend compte qu'il y a plusieurs celliers de vignes, puisque là, vous êtes à l'intérieur de ce qu'on appelle un cellier. Il y a des celliers qui sont très anciens et qui appartenaient à des établissements religieux. Et dans l'inventaire du patrimoine qu'on a réalisé, par exemple, on sait que le presbytère d'Aïse, c'est aussi un ancien cellier de vignes. Et il y a des parties anciennes médiévales qui pourraient remonter au haut Moyen-Âge, c'est-à-dire avant le XIe siècle, et le XIIIe siècle. Il y a d'autres bâtiments d'établissements religieux qu'on a répertoriés et généralement ça tourne autour du XIe, XIIIe siècle pour les premières mentions de ces bâtiments. Voilà. On ne connaît pas l'identité des premiers vignerons qui sont venus s'installer ici. On suppose que potentiellement la vigne sur ce territoire elle a commencé à l'époque romaine. On sait que depuis le Moyen-Âge c'est exploité, ça on en a la certitude. On était dans l'ancien cellier de l'abbaye d'Eau. Le propriétaire vous a dit que ça relevait du XIIe et du XIIIe siècle. On suppose que depuis l'époque romaine, c'est exploité ici parce qu'on est sur un territoire d'adret et on a un fort ensoleillement.
Est-ce que les vignes d'aujourd'hui sont les mêmes qu'autrefois?
Ce gringet-là, en fait, il est issu d'une longue histoire qui peut avoir 2000 ans, en fait. C'est peut-être pas forcément le même raisin qu'il y avait il y a 2000 ans, mais il est issu de cette longue histoire de l'exploitation de ce terroir.
Eh ben, on va aller faire un petit tour dans les vignes. Puis on va voir un peu les traces d'histoire avec tous les anciens murs qu'il y avait et qu'on a conservés. Donc déjà dans les vignes, il y a de l'herbe. Donc en général, c'est un bon signe pour les vignes bio. Hein, une vigne très propre sans herbe, c'est en général une vigne qui est très tôt désherbant. Donc là, c'est un peu la foire, mais il y a du vivant. Et donc en débroussaillant la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une grosse pierre plate là sur le côté. Et en fait, on a redégagé l'escalier. On s'était pas rendu compte qu'il y avait un petit escalier ici. Ça, c'est la roussette d'Aïse. En fait, on a deux cépages uniques dans le coin, la roussette d'Aïse et le gringet. Donc, je plante le cépage gringet parce que, en fait, sur cette appellation, il y a principalement du gringet. Et c'est un cépage assez unique au monde. Il doit y avoir 22 hectares ou 25 hectares sur l'appellation. et c'est quasi que du Gringet, ce cépage blanc. Et après, il y en a un tout petit peu dans le Jura, un petit peu vers Albertville, un petit peu en Combe de Savoie, un petit peu en Californie. Mais sinon, il est vraiment qu'ici.
Combien de bouteilles vendez-vous par année ?
Bah, pas beaucoup. En fait, j'ai démarré avec 4000 m² de vieilles vignes qui ont 40-50 ans. Et du coup, bah, ma première année, j'ai dû faire 600 bouteilles. C'était 2018, 2019 un peu plus, autour des 1000-1500. Donc en général, c'est 1000-1500. En 21, on a eu une mauvaise année, donc c'était très humide. J'ai fait 100 bouteilles. Et en 2024, c'est l'année qui était le mieux, j'ai fait 2000 bouteilles. Mais l'objectif, c'est de faire à peu près 10 000 bouteilles par année dans le futur.
D'après vous, comment le changement climatique peut influencer le goût du vin ?
Et ben pour nous, c'est pas mal. Parce qu'à l'époque, ils vinifiaient, et c'était principalement du pétillant, parce que le vin, il était à 9,5. Et ils le ramassaient mi-octobre, sous la neige ou sous des pluies bien froides. Et maintenant, bah, cette année, là, on se profile pour vendanger, je pense, pour les pétillants début septembre, mi-septembre, et pour les tranquilles, mi-septembre, fin septembre. Et on a des choses, moi, ma première année en 2018, j'étais à 14,1. C'est des valeurs qu'on avait pas avant, parce qu'on était plus proche des 9,5. Les vins de Savoie sont pas très hauts en alcool en général. On est souvent autour des 12. Sur la Mondeuse Noire, c'est difficile d'aller à 12, donc il y a moins d'alcool que des vins du sud, mais suffisamment d'alcool pour qu'on ait un peu toute la palette possible pour les vins. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne chose.
Quel problème cause le changement climatique sur les vignes ?
Donc c'est vrai que c'est bien parce qu'on a un petit peu plus d'alcool dans le vin. Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'on a plus d'épisodes violents. C'est-à-dire, bah, hier soir, il y a eu un gros coup de vent. Ils annonçaient de la grêle. J'ai vu que là, en Italie, il y a eu un gros épisode de grêle. Donc pas au Val d'Aoste, mais un peu plus bas. Donc en fait, c'est des choses un peu plus violentes. Bah, la sécheresse va être peut-être un peu plus longue. Les coups de vent plus violents. Des épisodes de grêle, de la pluie forte. Donc tout est un peu plus exagéré, on va dire.
C'était Adrien Vallier sur son domaine viticole à Marigné.
Comment les vignerons vont s'adapter au changement climatique, Abigail ?
On a interrogé Romain Gandia, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Il fait partie du département technologie et management. Il conduit des recherches sur les modèles comportementaux et écologiques dans le monde viticole. Alors le prix du vin va-t-il augmenter ? Faudra-t-il ramasser les raisins plus tôt ? Réponse avec Romain Gandia.
Pourquoi est-ce que le vin il augmente ? Si le vigneron, chaque année, il a de plus en plus de mal à s'occuper de ses vignes et à faire mûrir correctement son raisin, ça veut dire qu'il va devoir redoubler d'efforts. Il va devoir travailler plus, il va peut-être devoir, dans les années très pluvieuses, traiter la vigne plus que d'habitude. Il va peut-être devoir avancer la date des vendanges, il va peut-être devoir aussi embaucher plus de personnel. Donc ça veut dire que ses coûts, ce que lui dépense pour cultiver sa vigne, ça va augmenter. Et parfois, il y a aujourd'hui des vignerons qui se disent même « mince, il fait tellement chaud qu'il faut que je plante des arbres. Mince, il fait tellement chaud qu'il faut peut-être que, entre mes rangs de vignes, je mette des couverts végétaux, donc des plantes particulières qui vont garder un peu d'humidité. » Et ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc pour l'instant, on voit effectivement que les prix augmentent. Alors, ce n'est pas chez tous les vignerons. Il y a des vignerons qui arrivent encore à garder des prix stables, mais la tendance, c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même d'augmenter les prix.
C'était Romain Gandia, chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc.
À présent, on s'est demandé, que pensent les habitants de Sioncé du réchauffement climatique ? Amélie, raconte-nous.
C'est la question qu'on a posée aux passants dans le centre-ville de Sioncé. Pendant un micro-trottoir, ont-ils changé leurs activités avec la hausse des températures ? On écoute.
Alors l'impact du réchauffement climatique, on peut le voir que la neige commence à reculer, que les températures augmentent en hiver, parce que du coup je suis assez bien placé pour ça, je suis moniteur de ski, et du coup les saisons sont de plus en plus courtes.
La fonte des glaces, je dirais, peut-être un climat un peu déstabilisé.
Est-ce que vos activités en montagne ont changé comparé aux dernières années ?
Pour le moment, pas vraiment. On va rester sur des saisons. Donc nous, En été, on a une boîte de charpente, on va refaire tout ce qui est refuge et ainsi de suite, spécialisé un petit peu dans la montagne. Et puis, en hiver, on est au ski. Donc, pour ma génération, je pense que ça va tenir.
Ben, il faut aller beaucoup plus haut pour pouvoir voir de la neige. Après, il reste les balades. Bon, c'est différent maintenant.
Et comment imaginez-vous le futur en montagne ?
Je l'imagine vachement moins blanc.
J'espère qu'on va réussir à quand même produire un peu de neige artificielle pour pouvoir continuer un peu ce phénomène de ski et puis essayer de vivre ensemble avec, en harmonie avec les paysans en été et puis nous qui sommes tributaires de la neige en hiver.
Le futur en montagne, pour moi, seules les grandes stations de ski très hautes auront de la neige, mais en bas, c'est il n'y a plus.
C'était un micro-trottoir réalisé à Sionzie par les élèves pour l'émission Eldoradio.
C'est le moment de l'émission que vous attendez. Nous avons testé pour vous des exosquelettes de randonnée, un nouvel usage pour la montagne qui sera utilisé pour des activités en dehors du ski. Pauline, c'est à toi.
Oui, nous avons interviewé Ludovic Pierre, directeur de l'innovation, et Tom Chaletex, ingénieur à Quechua, une marque de Décathlon, au Mountain Store de Passy. Ils nous ont fait tester des exosquelettes commercialisés par Décathlon. Et ils nous ont parlé de leur prototype pour Quechua. Une nouvelle technologie pour des randonneurs, surtout pour ceux qui ont des douleurs musculaires. Une nouvelle façon de s'approprier la montagne, même sans neige.
Donc je l'installe au niveau de la hanche, là, comme ça. Hop, je vais le serrer comme une ceinture de sac à dos. Et ensuite, je vais attacher les deux spatule sur les cuisses. Et donc voilà, là il est en place. Et l'idée, vous le voyez, donc c'est qu'il y a un moteur de chaque côté. Ça, c'est les deux parties, la partie ronde, c'est des moteurs. Et en fait, il va m'aider à lever la jambe et surtout à venir appuyer sur la jambe quand je marche. Donc quand je marche, je vais d'abord lever la jambe et ensuite là, j'ai besoin qu'il m'appuie et donc il va me soulager, surtout dans la randonnée avec du dénivelé. Donc voilà à quoi ça sert. Moi, c'est Tom Chaletex et je suis ingénieur produit. Et on va vous présenter, donc qu'est-ce que c'est un exosquelette de randonnée? Un appareil qui va vous aider à marcher, qui va vous assister. Donc c'est pas un robot qui marche à votre place, c'est vraiment comme un vélo électrique, c'est un appareil qui va vous donner un peu plus de puissance pour passer des passages difficiles ou alors pour quelqu'un qui va être un peu fatigué ou des personnes, des seniors, enfin voilà. Donc c'est un appareil qu'on a ici. Voilà, faut bien le serrer parce que comme ça, ça bougera moins. Et ce sera beaucoup plus confortable. Voilà, super.
Ludovic Pierre, moi je suis le directeur Inno Quechua Randonnée et je suis aussi chef de projet sur le projet Exosquelette. On sait qu'il y a des fabricants en Chine qui produisent pas loin de 20 000 exosquelettes par an, mais c'est un chiffre qui est difficilement vérifiable.
Notre exosquelette, celui qu'on a développé, il y en a eu zéro qui ont été vendus puisque on n'est pas allé jusqu'à le vendre aux gens. On s'est arrêté à l'étape de prototype. Donc on les a testés, on les a fait tester à plein de gens ici. Une centaine de personnes à peu près ont pu les tester. Mais par contre, on s'est arrêté à cette étape. Et donc après, là, depuis un an, on travaille avec des exosquelettes d'autres, des partenaires. Donc c'est des fabricants d'exosquelettes, dont ceux que vous voyez là. C'est naissant, donc il va y en avoir peut-être quelques centaines ou quelques milliers maximum. Au début, tu ne vas rien sentir, ça va peut-être juste un petit peu bouger. Et donc là, en fait, on peut changer les vitesses. Donc on peut augmenter pour que ça assiste plus fort. Comme un vélo électrique, tu sais, il y a des vitesses 1, 2, 3, 4. Là. Et ben là, donc là, je te le mets en vitesse 2 pour l'instant, c'est à la moitié à peu près. Et donc tu peux commencer, tu peux marcher, il faut laisser un peu de la place. Donc marche vraiment normalement, comme si tu n'avais rien. Et tu vas me dire quand tu commences à sentir quelque chose.
En fait, c'est comme si ça me tirait vers le devant. Mais le pire, c'est que genre, je sens pas de fatigue. Je marche, mais je sens pas de fatigue du tout.
Il y a à contrôler le monde.
Est-ce que l'exosquelette va attirer plus de monde dans les chemins de randonnée? Comment l'encadrer?
C'est possible, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, comme ça peut aider des personnes qui ne pouvaient plus randonner, c'est possible qu'il y ait un peu plus de personnes qui aient accès à la montagne. Et pour ça, nous, on travaille avec une association de protection de la montagne qui s'appelle Mountain Wilderness et pour réfléchir à comment on fait pour éviter que le fait qu'il y ait plus de monde sur les chemins viennent dégrader l'environnement. Donc il y a plein de solutions à ça. Ça peut être de simplement, quand les gens vont venir louer l'exosquelette par exemple pour faire une randonnée, leur conseiller des itinéraires qui ne sont pas ceux que tout le monde fait, donc pour pouvoir éviter que tous les gens aillent au même endroit. Enfin voilà, profiter un petit peu de cette relation qu'il va y avoir avec un loueur ou avec un magasin quand les gens vont venir pour acheter ou louer un exosquelette, et ben pour leur transmettre des informations, leur expliquer qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller, d'autres où ce serait mieux qu'ils aillent, enfin voilà. Donc rajouter un petit peu de pédagogie.
Et ça pose du coup une bonne question, c'est est-ce qu'il vaut mieux que les gens restent sur leur canapé à ne pas faire de sport ou à ne pas bouger, ou de réussir à les mettre finalement à l'activité, même si ça provoque finalement un peu plus de fréquentation. Le sport, c'est quand même un élément moteur de la vie, et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens restent en bonne santé, donc ça fait partie de l'équilibre, en tout cas, qu'on doit trouver entre fréquentation et mise au sport.
À la montagne, on fera moins de ski. Est-ce que la randonnée va être une nouvelle activité selon vos prévisions ?
Effectivement, le climat change, moins de neige, donc on a besoin de diversifier les activités en montagne. La montagne, ça reste un refuge, ça reste un endroit à la fois de loisirs et un refuge climatique. Et du coup, effectivement, au même titre que le vélo électrique, on voit arriver des fat bikes pour faire du vélo l'hiver sur des parties un peu enneigées, ou en tout cas préparées. Mais oui, l'exosquelette, enfin en tout cas l'assistance à la randonnée peut être un moyen de pratiquer plus souvent sur des périodes où potentiellement on ferait autre chose aujourd'hui comme activité, comme le ski. Alors que maintenant, peut-être que demain, on fera un peu plus de rando, plus de vélo, même l'hiver.
C'était Ludovic Pierre et Tom Chaletex de Quechua sur le futur des exosquelettes de randonnée.
L'émission Eldoradio touche à sa fin. Le projet est soutenu par le programme européen Images.
Merci à nos journalistes et aux techniciens. Ciao.